Bonjour à tous. Je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, les versets 1 à 7. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pérets et Zara, Pérets engendra Hezrom, Hezrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nahson, Nahson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, etc. Et le verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Génération après génération, siècle après siècle, le plan de Dieu pour l'humanité se déroule et se concrétise. Dieu est à l'œuvre dans l'histoire de l'humanité. Antoine Nouys, théologien protestant, dans un livre récent, Nos racines juives, écrit « Les généalogies de la Bible ne sont pas scientifiques pour définir des filiations rigoureuses, elles sont théologiques pour dire quelque chose de la révélation de Dieu à travers la cascade des générations. » La généalogie de Matthieu n'a pas pour objectif de nous apprendre le nom des ancêtres de Jésus. C'est une narration, une histoire racontée. Dans cette liste des ancêtres de Jésus, quatre noms de femmes, Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri, Bethsabée ou Bathsheba. Quatre femmes à la vie tumultueuse, mais nommées au début de l'évangile de Matthieu pour attester de l'humanité de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, envoyé sur terre pour changer le monde, pour bouleverser les relations des femmes et des hommes entre eux et rétablir une relation entre les humains et Dieu, le Créateur. Tamar, une histoire glauque de l'Ancien Testament où les bonnes mœurs passent à la trappe. À lire dans Genèse 38 pour ceux qui veulent. Rahab, prostituée à Jéricho, héberge et cache les espions de Josué, venus explorer la terre promise à conquérir après la sortie d'Égypte et la traversée du désert. Lors de la chute de Jéricho, grâce à un cordon de fil cramoisi, elle et sa famille survivent à la prise de Jéricho par le peuple d'Israël. Rahab devient l'épouse de Salmon, peut-être l'un des espions hébreux, et elle donne naissance à Boaz ou Boaz. Ruth, l'étrangère du pays de Moab, devient l'épouse de Boaz et donne naissance à Jessé ou Isaïe, le père du roi David. David prendra pour épouse Bathsheba, la femme d'Uri, qu'il fait tuer à la guerre après une relation adultère. Quatre femmes à la vie compliquée, confrontées au deuil, à la solitude, à la misère, mais qui, à un moment ou à un autre, prennent leur vie en main pour retrouver un statut social plus confortable. Je cite à nouveau Antoine Nouys, que ces femmes aient eu une vie tumultueuse, cela arrive. Mais que le Nouveau Testament les nomme dans son premier chapitre est un geste théologique. Elles n'ont pas eu une vie très vertueuse, mais leur histoire est à mes yeux la plus belle application de la recommandation de l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. S'il y a des vies qui ont été salées et graciées, ce sont celles de Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée. Elles ont été des combattantes de la vie. Je vous propose ce matin de nous intéresser un peu plus à la moins glauque de ces héroïnes de l'Ancien Testament, Ruth, l'étrangère, la Moabite. Un livre entier de l'Ancien Testament lui est consacré, et ce livre, paraît-il, était lu dans les synagogues à cette période de l'année, au début des récoltes, en particulier lors de la fête annuelle de Pentecôte, en raison des scènes de moisson des chapitres 2 et 3. Nous lirons quelques extraits du livre de Ruth, mais je vous invite à relire ce texte en entier. Il n'est pas très long, il est agréable à lire en une seule fois à la maison, et cela permet de mieux comprendre comment Dieu nous a accompagnés, comment Dieu a accompagné les différents personnages de l'histoire et nous accompagne tout au long de notre vie. Comment il se tient à nos côtés pour traverser et surmonter les crises de notre existence et nous combler de ses bontés le moment venu. Nous lisons dans Ruth, chapitre 1, les versets 1 à 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. La famine qui sévit en Israël incite Élimélec et Naomi à se rendre en pays étranger pour ne pas mourir de faim. Le père, la mère, deux fils en âge d'être mariés, de bons atouts pour un nouveau départ au pays de Moab. Mais le chef de famille vient à décéder. Voilà Naomi devenue veuve avec ses deux fils qui choisissent d'épouser chacun une fille du pays, en dehors du peuple d'Israël. Aucun commentaire n'est fait dans le texte pour dire que ce choix est approuvé ou désapprouvé. Les épouses des fils de Naomi ne sont pas du peuple d'Israël. Les épouses ne sont pas de tradition religieuse juive, elles sont d'origine païenne. Orpa et Ruth, les deux filles moabites, rejoignent la famille de Naomi et découvrent les traditions judaïques avec un Dieu unique, un Dieu céleste qui cherche à entretenir une relation avec chaque individu. Un nouveau malheur les frappe. Machlon, le mari de Ruth, et Kiljon, le mari d'Orpa, meurent. C'est le drame puissance 3. Naomi, âgée et veuve, Orpa, jeune et veuve, Ruth, jeune et veuve. Trois femmes qui perdent dramatiquement leur statut social. Trois femmes dont l'avenir devient incertain, accablées par le chagrin et la souffrance intense liée au deuil. Nous lisons Ruth 1, les versets 6 à 18. Puis elle se leva, donc Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos, dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour que Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Elles pleurèrent et pleurèrent encore. Il y avait de quoi être bouleversé par le chagrin, la perte d'être cher, un avenir sans visibilité, une absence de sécurité matérielle et la perspective d'un gros effort à fournir pour survivre physiquement et socialement. Malgré la souffrance, Naomi donne une parole de bénédiction à ses belles-filles. Que l'Éternel use de bonté envers vous, que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, au verset 8 et 9 que nous avons lu. Pour elle-même, Naomi est révoltée, en colère, et rend l'Éternel responsable de sa situation. Naomi accuse l'Éternel au verset 13 d'avoir étendu sa main contre elle. Elle aspirait à une vie tranquille auprès de son mari et de ses deux fils, et voilà qu'elle se retrouve seule. Comment ne pas interpeller Dieu qui, par ailleurs, pourvoit à nos besoins quotidiens? Mais pendant la période de deuil, comme tout être humain, notre corps est envahi par un tourbillon d'émotions qui se répercute sur notre rapport à la vie elle-même. Le choc du décès, la douleur et la culpabilité, la colère, la négociation, la dépression, la reconstruction et l'acceptation sont des phases qui suivent un deuil décrites par les psychologues qui s'intéressent à notre humanité et à notre souffrance. Naomi est en pleine colère lorsqu'elle rend l'Éternel responsable de sa situation et elle renouvelle son accusation en arrivant à Bethléem au verset 20 et 21. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Parce après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Dans le texte biblique, aucune mention n'est faite pour nous indiquer si cette attitude est acceptable ou condamnable. Qui suis-je pour interpeller le Tout-Puissant? Cette histoire nous rappelle celle de Job, dont les proches suggéraient de lire du mal de Dieu pour tous les malheurs qu'il a subis. D'une manière générale, nous avons le droit d'exprimer nos émotions, y compris notre colère légitime et humaine. Mais un jour ou l'autre, c'est les paroles de sagesse de Job qui doivent s'imposer. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Revenons à nos trois veuves. Face à la triste réalité, il convient d'agir. Pour Naomi, qui a appris que la période de famine était terminée, le retour vers la terre de Bethléem, le retour vers un cercle familial, le retour vers une communauté religieuse qui protège les veuves et les orphelins et les étrangers s'impose. Nous lisons dans Deutéronome 24, les versets 19 à 22. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Naomi n'a aucun élément convaincant pour entraîner ses belles filles à sa suite. Orpa choisit de rester à Moab, mais Ruth déclare son attachement et sa solidarité avec sa belle-mère et confesse que le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël, sera son Dieu et dans la foulée se soumet à la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, et jusqu'à la mort, comme nous avons lu au verset 16 et 17. L'acceptation du deuil est dans cette déclaration, et la reconstruction peut commencer, et une nouvelle confiance en la bonté de Dieu peut croître sans limite. À Bethléem, c'est le temps des moissons. La récolte s'annonce bien. Le droit des veuves comprend le droit de glaner après le passage des moissonneurs. Ruth est pleinement motivée pour faire de longues journées de travail pour ramener pour elle et Naomi de quoi s'alimenter et peut-être même de quoi vendre afin d'améliorer le quotidien de ce nouveau départ en terre d'Israël. Ruth se fait remarquer par le propriétaire du champ où elle ramasse ses épis d'orge. Son travail est facilité par la bienveillance des moissonneurs à son égard. Avec ce qu'elle ramène à la maison, Naomi, qui accusait l'Éternel d'être à l'origine de son malheur, reconnaît à présent la miséricorde à son égard. Ruth 2 au verset 20. Naomi dit à sa belle-fille, en parlant de Boaz, qu'il soit béni de l'Éternel, l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Le temps de la colère est dépassé. Le temps de la reconnaissance pour les bienfaits de l'Éternel est venu. Le temps de la rencontre, du partage, de la solidarité, de l'amour est en route. J'aimerais vous lire un texte qui parle de cette rencontre entre Ruth, la veuve moabite, et Boaz, un vieux célibataire, riche propriétaire terrien, fils de Rahab, la cananéenne, prostituée de Jéricho et Salmon, un combattant de Josué pour la conquête de la terre promise. Boaz endormi. Boaz s'était couché de fatigue, accablé. Il avait tout le jour travaillé dans son aire, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Boaz dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent, comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissait tomber exprès des épis, disait-il. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc, et toujours du côté des pauvres ruisselants. Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Boaz était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Boaz plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Il en voit de la flamme aux yeux des jeunes gens. Mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Donc Boaz, dans la nuit, dormait parmi les siens, près des meules qu'on eût prises pour des décombres. Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres, et ceci se passait dans des temps très anciens. Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge, la terre où l'homme errait sous la tente, inquiet. Des empreintes de pieds de géants qu'il voyait étaient mouillées encore et molles du déluge. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Boaz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Or la porte du ciel s'étant entrebâillée, au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Boaz vit un chêne qui sortit de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une race y montait comme une longue chaîne. Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Et Boaz murmurait avec la voix de l'âme, « Comment se pourrait-il que de moi ceci vint ? Le chiffre de maison a passé 80 et je n'ai pas de fils, je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante et moi mort à demi. Une race naîtrait de moi ? Comment le croire ? Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants ? Quand on est jeune, on a des matins triomphants, le jour sort de la nuit comme d'une victoire. Mais vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau. Je suis veuf, je suis seul et sur moi le soir tombe. Et je cours, bon mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. » Ainsi parlait Boaz dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé. Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'étant couchée aux pieds de Boaz, le sein nu, espérant on ne sait quel rayon inconnu, quand viendrait du réveil la lumière subite. Boaz ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait de tout d'Aspodel, et les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle, les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit par moments quelque chose de bleu qui paraissait une aile. La respiration de Boaz qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans les mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leur sommet. Ruth songeait et Boaz dormait. L'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament, c'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair parmi ses fleurs de l'ombre brillait à l'occident et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été, avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Le poète a pris quelques libertés avec le texte biblique, mais le poète a tous les droits. De qui s'agit-il ? Super. Victor Hugo. Ouais. Tofla. Très bien. Très bien. C'est Victor Hugo. Ouais. Exactement. Voilà. Donc c'est un poème de Victor Hugo. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que ce genre de texte figure encore au programme de littérature, même si les intégristes de la laïcité de l'éducation nationale essaient de faire oublier ses œuvres et ses réflexions qui font référence à la parole de Dieu. C'était une parenthèse. L'histoire finit bien. Boaz. Boaz, après le désistement d'un ayant droit, rachète la parcelle de terre qui appartenait à l'origine à Élimélec, le défunt mari de Naomi. En même temps, Ruth peut devenir légalement, selon le droit et usage de l'époque, son épouse. Ruth 4, les versets 9 à 12. On arrive à la fin de l'histoire. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérès qui fut enfantée à Juda par Tamar. » Impossible d'imaginer la fin heureuse de l'histoire après la description dramatique et catastrophique du premier chapitre. Dieu est présent tout au long du récit du livre de Ruth. Il n'intervient pas de façon évidente dans les choix que les uns et les autres font pour leur vie. Orpa est restée à Moab. Ruth a décidé de rester en Israël aux côtés de sa belle-mère. Dieu a permis une rencontre improbable entre Boaz et Ruth. Dans cette rencontre, néanmoins, chacun fait sa part. L'approche de Ruth est osée, mais encouragée par sa belle-mère. Et Boaz cherche un arrangement qui respecte le droit et les coutumes de l'époque. Les difficultés et les obstacles tombent petit à petit. Boaz et Ruth ont eu un fils Obed, qui aura un fils Isaïe ou Jessé, qui sera le père de David, deuxième roi en Israël. Dans notre parcours terrestre, aucune vie n'est semblable à une autre. La génétique de chacun est tout à fait originale, chacun son ADN. L'environnement culturel, éducatif, économique et social est infiniment diversifié, suivant l'endroit et l'époque qui nous voit naître. Mais Dieu, le Dieu de l'éternité, donne du sens et de la cohérence aux événements humains, au-delà des individus et des générations successives, afin que son plan de rédemption et de restauration d'un monde déchu devienne réalité. Pour conclure, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabée, des femmes remarquables avec une vie compliquée, mises à l'honneur dans le texte biblique et citées dans la lignée qui a vu naître Jésus. Quel bel exemple pour nous inciter à n'exclure personne de nos cercles de relations. Quel bel exemple pour nous apprendre à ne pas juger de ce qui est vertueux ou de ce qui ne l'est pas. Quel bel exemple de courage et d'abnégation pour perpétuer la vie par la procréation. Quel bel exemple de bénédiction transgénérationnelle. Nous voilà bien éloignés du modèle de femme à l'honneur d'un certain milieu chrétien qui enseigne que la femme ne doit exister que dans l'ombre de son mari. Laissons la Bible, la parole de Dieu, nous enseigner sur la façon dont Dieu aime les uns et les autres, quels que soient nos ancêtres, nos origines, quel que soit notre pays de naissance, notre race, quelle que soit notre identité sexuelle, femme ou homme. Amen.